Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Sébastien Krebs.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur RMC. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Il est précisément 4h26. C'est parti. C'est parti pour Charles Matin. Sans Charles Magnin, vous l'avez remarqué ce matin. Mais il est bien là, Charles. Il est au bureau, là. Il sera avec vous à 6h30 pour Apolline Matin. Tout le reste de l'équipe, évidemment, est là. Salut Anaïs Castagna.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous.
Ça va en forme?
Très en forme.
Ce mercredi matin, Anthony Kazmarek est avec nous pour la météo. Salut Anthony.
Salut Sébastien, salut Anaïs et bonjour à tous.
Un beau soleil hier, hein, c'est un peu le retour du printemps là.
Et ça continue aujourd'hui, sauf dans le nord-ouest, mais c'est vraiment la journée la plus douce de la semaine aujourd'hui.
Tu vas nous dire ça dans quelques secondes. On est en direct évidemment avec vous tous, on vous accompagne, rien ne change, on vous attend au 32-16. Si vous êtes déjà debout, pas encore couché, le standard est déjà ouvert, Quentin vous attend, vos messages aussi sur l'appli RMC Direct Studio. Et on vous attend notamment ce matin sur ce sujet, cette question. Faut-il un référendum sur les retraites? C'est ce que demandent les communistes, certains insoumis aussi comme François Ruffin qui sera tout à l'heure l'invité du face-à-face à 8h30. François Ruffin qui dit même qu'Emmanuel Macron doit engager sa responsabilité sur ce référendum, remettre finalement son mandat en jeu. Et partir, du coup, en cas de non. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que cette réforme est si importante qu'il faut la soumettre à référendum? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites, l'élection présidentielle est passée, cela a validé le principe de la réforme des retraites, puisque c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est la ligne de défense au gouvernement. 32-16, on vous attend, l'application RMC, on parlera aussi de l'essence ce matin, de la pénurie qui semble s'installer dans certaines stations, la grève chez Total Energy qui continue. Est-ce que vous êtes confronté à ces situations de stations vides? Venez nous raconter au 32-16.
Et puis, on n'oublie pas tous nos rendez-vous. Évidemment, ce matin, dans mon choix à 5h10, je vais vous parler de l'événement aujourd'hui dans les salles de ciné, la sortie de novembre sur les attentats du 13 novembre. On verra comment le sujet est traité. C'est pas la première fois que le cinéma s'en empare. Et puis, on va aussi sourire grâce au meilleur de Julien Cazard et d'Arnaud Demanche, les rendez-vous humour d'RMC.
Il y a déjà des messages sur l'application RMC ce matin. On salue Laurent qui nous dit salut les nuits. 17 degrés ce matin en Bretagne. Bretagne Sud, bonne journée, sans presque pas beaucoup de soleil du côté de la Bretagne. Anthony va nous confirmer ça. 11 degrés du côté de Givry, nous dit Serge, on ne se plaint pas, il ne pleut plus. Par contre, beaucoup de brouillard, attention, prudence, hein, si vous êtes sur la route avec du brouillard. Bonjour au matino, nous dit Monique, ce jour normalement grand beau, balade à vélo. Et jambon, campagne, accompagné d'une bonne bière. Ben voilà, c'est pas mal bien, comme ça. Programme ce mercredi.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Sébastien Krebs.
Il est 4h43, très bon réveil avec RMC. C'est l'heure d'ouvrir le débat. Faut-il un référendum sur les retraites?
C'est la question du jour sur RMC.
Et Emmanuel Macron doit-il retourner face aux Français, soumettre au vote sa réforme des retraites, quitte, comme le dit l'insoumis François Ruffin, à remettre en jeu finalement son mandat devant tous les Français? On va en débattre tous ensemble parce que la question est posée à l'Assemblée nationale par les élus communistes qui ont déposé une motion pour réclamer que cette réforme des retraites promise par le président soit soumise à référendum. Si l'Assemblée vote cette motion, mais cela obligera le gouvernement à organiser ce référendum. Alors, on n'en est pas encore là, mais écoutez ce que dit le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel. C'est lui qui est à l'initiative de cette proposition.
7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme de la retraite parce qu'ils ont compris qu'elle est injuste. On n'a pas les mêmes points de vie en bonne santé quand on a fait sa carrière chez Rothschild ou quand on est aide-soignante ou aide à domicile. Si on recule l'âge de la retraite pour ces gens-là, c'est la retraite pour les morts, comme disait la CGT en 1910. Eh bien, puisqu'il y a débat, puisque c'est une question fondamentale, question simple, au peuple français, voulez-vous, oui ou non, voir l'âge de la retraite reculer? Et moi, je suis sûr de la réponse du peuple français.
Voilà, il est sûr de la réponse du peuple français, Sébastien Jumel, député communiste. 7 Français sur 10 sont opposés, dit-il. Oui ou non, voulez-vous voir l'âge de la retraite reculer? Pour le camp présidentiel, vous l'imaginez, c'est évidemment hors de question d'organiser ce référendum. Il y a déjà eu l'élection présidentielle, voilà ce que répond le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
Les Français ont eu l'occasion de voter à 4 reprises. 2 tours d'un présidentiel, 2 tours d'un législatif. Je ne dis pas qu'ils ont voté pour la réforme des retraites. Je dis néanmoins qu'ils ont voté pour un candidat et pour un programme qui incluait de manière la plus limpide qui soit qu'il y aurait une réforme des retraites, quelle serait cette réforme de retraite et même à partir de quand elle serait appliquée. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de nouvelles élections ou un nouveau référendum pour statuer sur la nécessité ou non. On ne tombera pas d'accord avec les communistes sur la nécessité de réformer les retraites.
Voilà, le débat est posé. 32-16, on vous attend. L'application RMC, l'onglet Direct Studio, faut-il soumettre à tous les Français cette réforme des retraites par référendum? C'est l'idée aussi que soutient l'insoumis François Ruffin. Je vous le disais, François Ruffin qui sera l'invité du face-à-face avec Philippe Corbet tout à l'heure à 8h35. Et lui, il considère qu'Emmanuel Macron doit carrément remettre son mandat en jeu, comme avait pu le faire le général de Gaulle dans le passé. Hein. Anaïs, t'as regardé, il y a eu plusieurs cas comme ça de référendum sous la Ve République.
Il y en a eu 10 sur la constitution de la Ve République, l'Algérie, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, le passage du septennat au quinquennat ou encore sur plusieurs traités européens. Le non l'a emporté seulement 2 fois sur le projet de régionalisation voulu par le général de Gaulle en 69 et sur le traité portant constitution pour l'Europe en 2005. En 69, Charles de Gaulle avait engagé sa responsabilité et il a démissionné suite au résultat. Ça ne sera pas le cas de Jacques Chirac en 2005.
Voilà, Rémi est avec nous au 32-16. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Rémi, couché tard ou levé tôt?
Levé tôt, 3h.
Levé à 3h, qu'est-ce que vous faites dans la vie Rémi?
Du ménage.
Du ménage, agent d'entretien, vous travaillez où?
Oh là, plein d'endroits différents.
Dans les entreprises?
Voilà, oui.
D'accord, dans les entreprises, et vous arrivez très très tôt le matin pour que les bureaux soient propres avant l'arrivée des salariés. Vous êtes du côté de Grenoble, hein, c'est ça?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de soumettre à référendum cette réforme des retraites?
Ben, c'est une réforme qui est très importante et qui concerne absolument tout le monde, et du coup, c'est tout à fait normal pour moi que tout le monde les voit au chapitre directement. C'est pas que la représentation nationale ne servent à rien et qu'elle soit court-circuitée, parce que ce ne sera pas pour chaque loi, ce ne sera pas pour chaque réforme. Et moi, je ne comprends pas quand 7 personnes sur 10, à peu près 70% des gens, d'après les sondages, sont contre une réforme, que la représentation nationale soit en passe de la voter. Qu'est-ce que ça dit de la représentation nationale, quoi?
Alors après, 7 Français sur 10, je ne sais pas exactement à quel sondage faisait référence cet élu communiste, parce que vous savez que c'est toujours comme ça, ça dépend. Quelle est la question posée? Est-ce que il faut travailler plus longtemps? Est-ce que l'âge doit être 65, 64, 63? Peut-être que la réponse peut-être serait différente en fonction de la question. La question aussi, c'est est-ce qu'on répondrait vraiment à la question si on organise un référendum? Est-ce que ça se transformerait pas finalement en un référendum pour ou contre Macron? En quelque sorte, ce serait ça.
Mais de toute façon, chaque référendum qui a eu lieu pendant la Ve République, c'est toujours traduit au moins un peu par une approbation du président ou pas. Ouais. C'est-à-dire, quand en 2005 il y a eu le référendum, il y avait un camp clairement que le président favorisait, et les gens, il y a des gens qui ont voté à l'opposé, juste contre. Ouais. Ça a toujours été comme ça, on peut pas se départir de ça de toute façon, mais c'est pas pour autant qu'on doit plus demander l'avis au peuple.
Et qu'est-ce qui se passe si le non gagne? C'est le président doit démissionner, c'est ça pour vous, c'est ça qui...
Bah écoutez, qui doit démissionner, je comprends que ça chiffonne, mais moi je comprends aussi que la légitimité de la personne qui base son projet sur cette réforme et sur la philosophie qu'elle contient soit remis en cause par le fait que 70% des gens, enfin, d'après les sondages encore une fois, ne veuillent pas de ce projet-là. Je veux dire, je suis désolé, parce qu'il faut bien dire que M. Véran, il a beau jeu de dire oui, les Français ont eu 4 fois l'occasion de voter, mais il faut bien admettre qu'il n'y a quand même pas grand monde pour vous répondre que c'est parce qu'ils voulaient une retraite plus tard. Hein.
Ouais. Pourtant, c'était quand même dans le programme. Ça a été clairement, pour le coup, on ne pouvait pas l'ignorer.
On aurait pu dire non à Emmanuel Macron au moment de la présidentielle.
Non, mais si, enfin, vous n'allez pas me faire croire que les gens, entre Mme Le Pen et M. Macron, ils auraient dû voter Mme Le Pen à cause d'un élément de programme de Macron.
Ouais. Il y avait enfin, cette donnée dire, dans
personne,
le
personne dans le vote. Ça, voilà, c'est juste pas, on peut préférer la peste au choléra sans pour autant vouloir les bubons, quoi. Vous voyez ce que vous voulez dire?
Rémi, donc, merci. Merci beaucoup pour votre témoignage, Rémi. On va donner, vous pouvez d'ailleurs rester avec nous. On va donner la parole à Aïcha qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Aïcha.
Bonjour Sébastien. Bonjour Anaïs.
Bonjour Aïcha.
Comment ça va ce matin?
Très bien, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, très bien.
Ben oui, je lisais votre message tout à l'heure, c'est vous qui êtes réveillé pour cause d'insomnie.
Oui, c'est ça. Et puis je revenais, c'est ce que je disais au standard 10, j'ai voté, hein, mais je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron.
D'accord, très bien.
Voilà, j'ai fait mon devoir de citoyen.
Donc vous avez voté, donc vous avez voté, donc j'en déduis que vous avez voté pour Marine Le Pen. Vous étiez donc...
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord. Je parlais du deuxième tour, mais alors on n'est pas obligé de le dire. Mais en tout cas, vous n'avez pas voté pour cette réforme des retraites, ça non. C'est clair, voilà.
Non, c'est clair. Et puis moi je trouve que oui, le référendum, il est primordial parce que ça nous concerne tous. Moi, ce sera beaucoup plus tard. Et moi je pense qu'il faut demander l'avis aux citoyens, quoi.
Après, on pose quoi comme question ? Parce que c'est ça aussi, est-ce qu'on demande, est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite à tel ou tel âge ? Ou est-ce qu'il faut... Parce qu'il y a aussi tous les autres aspects, ça va être une réforme compliquée, il y a l'aspect pénibilité, la prise en compte de ceux qui ont travaillé longtemps, qui ont travaillé très jeunes, etc. Voilà. Donc il y a énormément d'éléments finalement. La question n'est pas si facile à poser.
Oui, certes, elle va être compliquée à définir la question.
Mais sur le principe, vous considérez que ça concerne tout le monde, quoi, qu'il faut se prononcer.
Ça concerne tout le monde.
Et est-ce que vous pensez que qu'Emmanuel Macron devrait démissionner si le non l'emporte ?
Si le non, même si je ne suis pas pour Emmanuel Macron, il a été élu. Moi, je pense qu'il doit rester. C'est vrai que son... Si le nom l'emporte, son quinquennat va être difficile, certes. Mais non, il doit rester jusqu'à la fin. De toute façon, en 2027, il ne peut pas se représenter. Donc, ouais. Et puis on va mettre qui après ?
Ah ben voilà, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que politiquement, ce serait très difficile de tenir,
après,
puisque c'est le président qui finalement, comme s'il engageait sa responsabilité, ce qu'on disait, c'est le général de Gaulle avait clairement fait ça et démissionné par la suite quand il avait échoué devant les Français. En tout cas, le débat continue. Vous continuez de nous appeler le 32-16, l'application RMC, l'onglet Direct Studio sur cette question. Donc la gauche qui demande, en tout cas les communistes qui demandent un référendum sur cette question des retraites, et la concertation sur les retraites d'ailleurs commence aujourd'hui au ministère du Travail avec les partenaires sociaux. Il est 4h52 sur RMC. Vous ne bougez pas, la voix du jour, juste après le journal de 5h, on va jouer tous ensemble. Et puis ton choix, Anaïs, à 5h10.
On va parler de novembre, le film sur les attentats du 13 novembre qui sort aujourd'hui en salle avec Jean Dujardin. Et des autres films qui sont sortis ces derniers temps sur le sujet, ils ont un point commun, aborder ce sujet avec une certaine pudeur. Et ça nous distingue, on le verra, des films américains.
Et bien d'abord, on va rire un peu avec Julien Cazard. Le Cazard enchaîné, c'est dans un instant, à tout de suite.
RMC, le Cazard enchaîné.
Nous reviendrons aussi sur le match d'hier soir, Lens-Lyon.
Oui.
Encore une défaite des Lyonnais qui n'a que 13 points sur 27 possibles. Un début de saison compliqué pour le directeur sportif Bruno Chéroux, qui très lucide et plein d'humilité avait prévenu que ça serait compliqué. Souvenez-vous.
Des ambitions et des objectifs élevés. Il y a peut-être des coachs dans d'autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'on est en train de faire. Et c'est pas anodin. C'était déjà le cas au mois de janvier dernier quand on avait fait venir Romain Feff, Tanguy Ndombele ou Tété par la suite. Donc il faut quand même être assez objectif par rapport à cette situation-là.
Ça me laisse absolument sans voix, j'ai des frissons. I believe
I can fly. La version longue est très bonne.
C'est beau, hein. C'est beau quand on réécoute après. C'est ça qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont magnifiques. Vous avez vu, donc, toujours dans ce match, Lens-Lyon, qu'il y avait un people à côté du président du RC Lens. C'était Renault au stade Bollard. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Lens, il y a une corbeille. Moi, c'est ça qui m'a plu, parce que d'avoir un people, c'est pas tous les jours. Tu vois, au parc, t'as Rihanna, Leonardo DiCaprio, Beyoncé. À Lens, c'est Renault. Mais il faut que vous sachiez que les people, c'est comme les joueurs. Lens, ils ont un petit budget. Ils doivent être malins. Tu tentes des coups, tu prends les anciens people branchés en fin de carrière. T'essayes de leur relancer une dernière saison en loge. C'est un pari. Tu sais que tu peux avoir peut-être un futur people, mais le people qui monte, tu peux pas l'avoir. Regarde. Par exemple, au parc, par exemple. Au parc, t'as tous les meilleurs people. Parce qu'ils reprennent, comme Obispo. Obispo avant, quand il était jeune, il était à Chaban-Delmas. C'est fini, tu peux plus te le payer aujourd'hui. Alors il y en a un il y en a un quand même qui reste dans son stade, c'est le Francesco Totti du People, c'est Cadmirad. Tu vois qui c'est Cadmirad? Tu le vois souvent au stade, Eric.
Ouais.
Alors Cadmirad, lui, il pourrait être au parc, franchement c'est une star. Mm. Eh ben non, il est au Vélodrome, ça c'est bon. Le mec quand même, il est entre Ben Gousse, Patrick Bosso, Mathieu Madénian. Faut l'amour du maillot quand même, tu vois. Mais il y va, il est toujours au Vélodrome.
RMC, le Casar enchaîné.
Le Casar enchaîné, c'est tous les soirs dans Rotten sans flamme, 18h-20h sur RMC avec Julien Casar. Et à tout moment, vous le retrouvez évidemment en podcast sur l'application RMC. 4h56, vous ouvrez l'œil, vous êtes avec RMC, vous avez fait le bon choix. C'est Charles Matin, Charles Magnin est là, il prépare Apolline Matin, il sera là bien sûr dès 6h30. Avec vous, toute l'équipe est là, Anaïs Castagna, Quentin Vinet est là avec nous. Dans un instant, on va écouter un peu de musique.
RMC, la playlist de Charles Matin.
Et je salue Quentin Dubois.
Salut bonjour
Quentin.
Sébastien, bonjour tout le monde.
Et quitter le standard quelques secondes pour nous présenter un petit peu de musique, pour mettre un peu de musique. Qu'est-ce que tu veux écouter ce matin?
Je veux vous faire écouter Génération featuring 070 Shake ou 070 Shake, ça s'appelle Neo Surf. C'est un producteur français qui produisait sous le nom de Surkin il y a quelques années. Et 070 Shake, c'est une rappeuse américaine. Le clip de Neo Surf a été réalisé par Romain Gavras. Et comme les choses sont bien faites, si vous aimez, vous pouvez suivre leur nouvelle collab sur le projet Athéna, le dernier film de Romain Gavras disponible sur Netflix depuis une semaine. Film pour lequel Génération a produit la bande originale. Le film est fou, la BO est folle et la reprise de I Am Prince de la Ville en version orchestrale est juste magnifique.
Je connaissais pas du tout. Analyste, t'en penses quoi?
J'aime
pas
beaucoup. Mal,
non? J'aime bien ça.
J'adore. Je valide ton choix, Quentin.
Allez, on valide. On valide le choix de Quentin. Marguerite Dumont nous a rejoint. Salut Marguerite.
Bonjour Sébastien.
Salut
Marguerite.
Allez, moi j'avais envie d'écouter un peu d'Oasis. Ça vous dit?
Allez, ça marche toujours.
Ça marche toujours. Oasis, pourquoi est-ce qu'on a des nouvelles rassurantes pour tous les fans d'Oasis, des nouvelles de la santé de Paul Arthurs, qui est l'ancien guitariste du groupe. Il se battait depuis des mois contre un cancer et il a annoncé sur Twitter être totalement guéri. Voilà, bonne nouvelle. C'est lui qui avait enregistré notamment ce titre Wonderwall. Liam Gallagher lui a écrit « Génial, on savait que tu botterais le cul à ce cancer ».
C'est dommage que Gégé ne soit pas là, Géraldine de Maury.
Ah oui, grande fan d'Oasis.
Bah oui.
Ah, bah voilà. C'est Anthony Cazenave.
On pense à elle, on lui envoie une petite pensée comme ça.
Ce matin.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Anaïs, ce matin, tu nous parles cinéma. Bah, c'est mercredi. Un film sur les attentats du 13 novembre sort en salle aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle Novembre de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin et Sandrine Kiberlin. Et c'est un film qui nous replonge dans une des pages les plus sombres de notre histoire.
Il y a des tirs dans le 10e arrondissement. Des rues, donne-moi les rues.
Héloïse est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine au Rouen.
C'est vrai, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
Film inspiré des attentats du 13 novembre, mais c'est une fiction, hein. Tout n'est pas vrai. Il se concentre sur la traque des terroristes par les policiers de la sous-direction antiterroriste. Écoutez.
Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue.
Le témoignage d'une jeune musulmane va les aider, mais c'était compliqué pour les policiers. Ils ont dû déjouer des fausses informations, des milliers de fausses informations, faire face à des erreurs humaines, à un manque de communication. Et puis, il y a bien sûr toute la charge émotionnelle. Comment réussir à être efficace quand on est nous-mêmes touchés par ce qu'il vient de se passer? Ça dure 1h45 et ça sort en salle aujourd'hui.
On a entendu la voix de Jean Dujardin. Je ne sais pas vous, moi, ça me donne des frissons un peu d'entendre ça. C'est un peu l'angoisse quand même, de revivre ça. Et si tu nous en parles, Anaïs, c'est parce que c'est pas le premier film déjà sur les attentats du 13 novembre.
En moins de 3 mois, 3 films se sont emparés du sujet. Novembre, qui sort aujourd'hui, mais aussi Revoir Paris, dans lequel Alice Vinocourt met en scène un attentat fictif et le travail de reconstitution d'une victime qui a oublié ce qu'il s'était passé juste après l'attaque. Écoutez, c'est Virginie Efira qui incarne ce personnage.
Vous vous souvenez de moi?
Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous?
Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu et vous n'avez pas ouvert.
J'ai pas fait ça.
Et puis il y a aussi Vous n'aurez pas ma haine qui sortira le mois prochain, l'adaptation du livre d'Antoine Léris qui a perdu sa compagne au Bataclan et qui raconte comment il a fait pour continuer à vivre. Mais c'est pas tout, je peux aussi citer Amanda, sorti en 2018, film qui retrace le parcours d'un jeune parisien qui perd sa sœur dans un attentat et qui se retrouve à élever sa nièce.
Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour.
Ou encore, bon là c'est pas du cinéma, mais En Thérapie, je sais pas si tu l'as vu, la série d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, qui se passe dans le cabinet d'un psy avec des patients infectés par les attaques du 13 novembre à Paris.
Il avait mis les infos, c'est comme ça que je suis pour le Bataclan.
Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats.
Ça y est, je suis ta psy.
Série absolument géniale au passage.
Alors tout ça n'est pas très joyeux évidemment, mais le point commun de toutes ces productions, c'est leur manière de traiter le sujet. À chaque fois, les attentats ne sont finalement jamais reconstitués. On est quelque part autour.
Ouais, c'est ça. Dans Novembre, qui sort en salle aujourd'hui, la nuit du 13 novembre est évoquée, mais il n'y a pas de reconstitution. Le but, c'était de montrer l'onde de choc qui a suivi et le travail des policiers. Le réalisateur d'Amanda affirme lui aussi avoir choisi de ne pas faire de reconstitution des attentats. J'aurais trouvé ça indécent, dit-il. D'autant que nous avons été saturés d'images sur les chaînes info juste après le drame. Des images qui créent du vide et qui n'aident pas à penser l'événement, selon lui. La réalisatrice de Revoir Paris, dont le frère était au Bataclan le soir du 13 novembre, n'a pas voulu reconstituer scrupuleusement ce qui s'était passé elle non plus, car son frère l'a convaincu qu'on ne pouvait pas représenter un attentat qui s'était réellement passé, qui a réellement eu lieu.
Peut-être trop tôt encore dans l'histoire, indécent, pas de
reconstitution. Il y a certainement autre chose.
On n'a jamais malgré tout entendu faire. Ça, les extraits qu'on diffuse là du film Novembre, où on entend il y a des tirs au Bataclan, et ça, on est quand même assez proche de la reconstitution, même si on n'est pas dedans
et on n'est pas au Bataclan. C'est vraiment très très important. Parce que par exemple, ça a été fait après le 11 septembre, Sébastien, dans World Trade Center, film américain sorti en 2006 notamment.
Ok, écoutez-moi. On doit faire évacuer la tour. Qui est volontaire? Un pas en avant.
J'en suis, sergent.
Film d'Oliver Stone qui raconte l'histoire vraie de deux policiers qui se sont retrouvés piégés dans les décombres des tours.
Et c'était juste 5 ans après.
Oui, c'était 5 ans après. Donc c'était plus tôt et surtout, on était dedans. Ou encore dans Vol 93, dans lequel Paul Greengrass, le réalisateur, se focalise sur le quatrième avion qui a été détourné et sur le sort des passagers qui vont tout faire pour que l'appareil évite Washington.
Il y a déjà 3 avions qui se sont écrasés sur des bâtiments. Ils ne ramèneront pas à l'aéroport.
Est-ce qu'on l'abat, cet avion?
C'est le président qui décide.
Si on veut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais.
Ce qui est intéressant dans ce film, c'est le travail qui a été fait avec les familles des victimes. Elles ont donné leur accord, elles ont participé à l'écriture, tant et si bien qu'elles disent ne pas avoir été choquées. Elles racontent au contraire que cette œuvre les a soudées, mais ça reste du spectacle à l'écran, des images choc dont on ne veut pas. Pour le 13 novembre, ici en France, on sent bien qu'il y a une différence de traitement des attentats.
Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller voir un film qui reconstituerait l'horreur absolue du Bataclan? Je ne sais pas.
Je pense qu'en France, vraiment, une grande partie de la population n'a pas du tout envie de voir ça.
On pense aussi au 14 juillet sur la promenade des Anglais. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça en image dans un film? Comme tu disais, on a été déjà saturé d'images, de victimes, etc., de récits. On a l'impression déjà de ça. Peut-être plus encore que le 11 septembre, je dirais qu'on a l'impression déjà de tout savoir sur ce qui s'est passé ces jours-là, non?
Oui, et puis surtout, est-ce qu'on a besoin des images pour pour revivre ça? Non, mais c'est une vraie question. La question aussi, c'est est-ce que vous avez envie d'aller voir ce film là, le novembre, qui n'aborde pas les attaques en tant que tel, mais qui peuvent être, ça peut être aussi difficile à vivre, tu le disais, toi, je sais pas si tu vas y aller.
Je sais pas, tu vois. Là, en écoutant les extraits, franchement, je me pose la question. J'y serais plutôt allé, de base, parce que c'est vrai que c'est le film et le moment, on a envie de le voir, on a envie de savoir ce que ça donne. Mais là, en entendant Dujardin faire le récit des attaques, etc., de revoir et de revivre
vraiment,
ça.
C'est le tout début du film. Ensuite, ouais, on est vraiment sur la traque des terroristes. C'est vraiment 99% du film. Hein. La traque, l'enquête policière de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend comment ils ont travaillé, justement. Ça a été un travail très, très compliqué. Donc, c'est aussi intéressant à voir et à regarder. Moi, personnellement, je vais y aller.
On est curieux de savoir si vous iriez voir ce film, si vous avez envie de le voir, si vous êtes curieux de voir ce film novembre, ou si vous trouvez que c'est un peu tôt pour replonger là-dedans, l'application RMC, onglet Direct Studio. Il est 5h17 sur RMC et on continue d'échanger sur notre débat du jour. La question du jour, faut-il un référendum sur les retraites? C'est ce que demandent les élus communistes qui ont déposé une motion à l'Assemblée pour qu'un référendum soit organisé, pour que cette réforme des retraites souhaitée par le président soit validée par tous les Français, quitte à ce que le président finalement joue son mandat dessus, parce que en cas de non, s'il fait comme le général de Gaulle, il est obligé de partir. Donc comment on fait? Est-ce qu'il faut revoter? Est-ce qu'il faut quasiment refaire la présidentielle? On vous attend aussi sur les prix de l'essence ce matin, avec cette pénurie qui s'étend dans les stations, la grève qui continue chez Total Energy et des stations qui sont vides. On en parlait tout à l'heure et on attend vos témoignages si vous vous retrouvez face à ces stations vides. Est-ce que faire le plein est en train de devenir une galère pas possible? On parlait des prix, maintenant il n'y a plus d'essence dans un certain nombre de stations. On attend tous vos messages au 32-16. Dans un instant sur RMC, eh ben c'est Arnaud de Manche. Il nous fait beaucoup rire tous les matins dans Apolline Matin. C'est tous les jours de Manche, on va l'écouter. D'abord on est au 32-16 avec Francisco. Bonjour Francisco.
Bonjour RMC.
Bonjour, comment Francisco. Ça va ce matin?
Moi, ça va très très bien, là. Je me suis levé comme tous les jours depuis 50 ans à 4 heures, et puis à 6 heures, je vais partir dans un lycée, tenir une permanence. Je suis retraité. Après, je suis président de société de pêche. Je vais aller voir comment est le site.
Et ben, donc, retraité, hyper actif, et levé à 4 heures.
Depuis 50 ans.
Eh ben, écoutez, apparemment, ça maintient en bonne santé.
C'est pas trop difficile de se lever tous les jours à cette heure-là?
C'est-à-dire, je me réveille, donc je me lève. Mmh. Hein, c'est pas par une obligation. Personne ne m'a obligé depuis des dizaines d'années à me lever. Mais bon, je me réveille, donc je me lève. Ouais, voilà. Des moments, j'ai un coup de barre à 14 heures, j'ai un coup de barre. Mais bon, je fonctionne comme ça pour le moment.
Bon. Et sur cette question, alors, du référendum sur les retraites, est-ce que vous y êtes favorable?
Oui, moi, je suis favorable à ce référendum, puisque Macron dit que c'est sa grande réforme qu'il veut l'imposer. Après une concertation, moi, je préférais un référendum, parce que la communication qui est faite par le gouvernement, elle est terrible depuis des années. C'est l'espérance de vie augmente, donc on doit travailler plus. Or, depuis 2015, l'espérance de vie baisse en France. Toutes les statistiques du ministère de la Santé le prouvent. Il y a eu différents articles. Le journal Les Échos, d'il y a 8 jours, disait que l'espérance de vie aux États-Unis, dans tous les grands pays occidentaux, baissait. Donc, Macron nous dit, vous allez travailler plus longtemps et vous allez mourir plus vite. Donc, vous voyez, c'est une escroquerie intellectuelle.
Après, quand on regarde nos voisins, Francisco, quand on regarde nos voisins, on est quand même un pays où on travaille moins tard que les Allemands, que les Anglais, qu'un certain nombre de pays qui nous entourent, qui eux sont déjà passés à 64, voire à 65, voire plus, hein, parfois.
Eh ben, est-ce que c'est la référence? Est-ce que dans une société injuste comme la nôtre, selon moi, il y a des choses positives, mais il y a des choses injustes. Est-ce qu'on est sur Terre pour travailler longtemps, longtemps? Déjà, on travaille 11 mois dans l'année, il y en a 12. On n'a qu'un mois de vacances. On travaille 5 jours par semaine. Donc, moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Il faut partager le travail. Je regardais tout à l'heure une émission projet télévision. Il y a 5 868 000 chômeurs en France. 5 868 000. Il faut partager le travail. Au contraire, il faut développer la productivité, bien sûr, diminuer le nombre d'heures de travail par semaine.
Mais est-ce que cette question, elle n'a pas été tranchée dans la présidentielle, Francisco? C'était la gauche qui proposait ça, bien sûr, mais la gauche a perdu à la présidentielle.
Je n'ai pas dit que la gauche avait gagné, mais je sais aussi que 66% des Français, selon toutes vos statistiques, même vous sur RMC, vous l'avez dit plusieurs fois, 66% des Français sont contre le passage de 62 à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Alors, je rappelle que moi, quand j'ai signé pour 37 ans et demi, en septembre 72, j'étais nommé prof et j'ai été obligé de faire 41 ans. Ouais. 41 ans de cotisation. Je suis même allé jusqu'à 63 ans parce que quand j'avais commencé à travailler à 22 ans, je n'avais pas mes 41 ans de cotisation.
Et vous demandez à ce que cette question soit finalement reposée aux Français clairement avec une réforme, oui ou non ? Un référendum, voilà ce que demandent les communistes et certains insoumis. Le débat continue. Il y a Pierre qui dit oui, un référendum, mais il faudra en respecter le résultat, pas comme sur la Constitution européenne. On s'en souvient et le nom qu'il avait emporté finalement pour que les mesures soient prises différemment. Le débat continue, l'application RMC, le 32-16, on vous attend, il est 5h22 sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud, il y a Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt en raison de ses liens avec l'armateur MSC.
Eh oui, c'est la croisière s'amuse. Alors la boîte MSC appartient à des cousins de sa mère et il a oublié de le dire quand il a approuvé des contrats. Oups. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait dû subir une perquisition. Il avait fait poireauter les policiers pendant 1h30. Je peux pas vous recevoir, messieurs. Je suis désolé, je suis sous la douche. Désolé, j'ai pas fini de m'habiller. Désolé, j'ai pas fini mon petit déjeuner. Mon café et mes disques durs sont encore dans le micro-ondes. Ah, ça y est, les ordinateurs sont bien cuits. Vous pouvez entrer, messieurs. Bon, heureusement, on a un ministre de la Justice qui va pouvoir suivre ça de. Ah oui, non, merde. Non, il a un problème lui aussi. Pas possible, c'est raté.
Emmanuel Macron qui a diffusé une vidéo hier en col roulé, hein, lui aussi, pour appeler les Français à participer au débat pour transformer le pays.
Eh oui, col roulé pour Macron, comme Bruno Le Maire, qui a donc lancé une tendance mode. Bruno, c'est la rigueur de l'économie allemande, mais une fringue hype qui marche, c'est Helmut col roulé. Voilà, c'est une vanne pour Manu. Elle est rien que pour vous, Manu.
C'est cadeau. Ah,
je crois que c'est un des signes de l'apocalypse, hein, quand Bruno Le Maire devient influenceur mode.
Salut les chéris nous, bienvenue dans les fashion tutos de Bruno. Alors aujourd'hui, osez le col roulé orange pour un splash chromatique qui rehausse un style optimiste et branché. Qu'en pense Amélie Rosic, notre fashionista franco-brésilienne?
Mais tu es magnifique, ma chérie.
Ah merde, c'est Christina Cordula, je me suis gouré de franco-brésilienne branchée.
Bon, alors parlons du contenu de ce discours d'Emmanuel Macron, oui, quand même, c'est important. Il nous propose de lui envoyer des suggestions pour améliorer l'état de la France sur un site dédié. Et oui, Emmanuel Macron, qui n'écoute pas les oppositions, les syndicats, les manifestants, la Convention citoyenne sur le climat, vous propose désormais à vous de ne pas écouter votre avis personnel. Déposez votre opinion sur le site et le président décidera lui-même de n'avoir rien à foutre de votre opinion. Ça change, c'est beau.
C'est beau.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demange qui revient en direct hein, tout à l'heure, 7h20, il pirate le 32-16, 8h20, c'est tous les jours de manche dans Apolline Matin. Évidemment, on le retrouve en direct. D'abord, c'est l'heure de jouer et de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
Et vous le savez, on joue hein, chaque matin tous ensemble avec la voix du jour qu'il faut reconnaître. Et c'est Guillaume qui a été le plus rapide au 32-16. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sébastien, bonjour Anaïs.
Bonjour Guillaume, comment ça va ce matin ?
Oh bah écoutez, ça va, en vous écoutant, ça va. On prend le café, le petit-déj, tranquillement.
Vous nous appelez de Villeurbanne, Guillaume.
Oui, tout à
Alors
fait.
Vous allez pouvoir nous donner votre réponse dans un instant.
Attention Sébastien, on va réécouter l'extrait qu'on a diffusé juste après le journal de Marguerite et on aura votre réponse juste après.
On vient chez un adversaire qui est invaincu, qui est en pleine confiance. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très très fort. Mais j'ai des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu par rapport à cela.
Alors Guillaume, qui est cette personne qui nous parle de ces joueurs ?
Alors c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier.
Bien joué !
Bravo, c'est exactement ça, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
Super. Ils sont
à suivre sur RMC ce soir le match, hein, ce sera à Lisbonne. Vous êtes supporter du PSG, Guillaume ?
Oh, parce que plus l'Olympique Lyonnais.
Bah oui, du coup, forcément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis chargé de clientèle dans la téléphonie mobile.
D'accord, donc réveillez tôt quand même. Hein.
Oui, vous partez tôt ce matin ? Je commence à 9h, mais je me lève toujours très 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 tôt.
D'accord. Bon, bah, vous avez le temps, prenez le temps de prendre un petit café, continuez d'écouter RMC. Et il y a un cadeau qui arrive à la maison.
Vous avez gagné des places pour le nouveau film d'animation Dragon Ball Z, super héros, qui sort en salle aujourd'hui. Bravo.
Ah bah, génial, ça va me rappeler des bons souvenirs de gosse, donc c'est génial.
Ah oui, c'est beaucoup. Ça. Et bah, avec plaisir, Guillaume, continuez de rester à l'écoute d'RMC. Très belle journée à vous du côté de Lyon. Et puis tiens, écoutez, parce qu'Anaïs va justement nous parler de ce film Dragon Ball Super Héros, le film que vous allez pouvoir voir en salle.
Et ça parle à tous ceux qui étaient enfants dans les années 90. Je suis sûre que tu as déjà regardé Dragon Ball dans Club Dorothée.
Bah oui, bien sûr. Souvenir.
Tu te souviens des personnages du dessin animé tiré du manga japonais? Il y avait Sangoku, le héros, qui grandit au fil des épisodes, et Vegeta, arrogant et colérique.
Il ne peut pas me vaincre, c'est impossible, je suis beaucoup plus fort que ce misérable.
Les Dragon Ball, super-héros, mais d'autres personnages en lumière cette fois-ci. Sangohan et Piccolo. Sangohan, c'est le fils de Sangoku, il est devenu papa, et il va faire face à une nouvelle menace qui pèse sur la Terre, la célèbre armée du Ruban Rouge.
L'armée du Ruban Rouge sera bientôt de retour. Ban !
L'heure est venue pour les héros d'intervenir. Plutôt stylé, non ?
J'ai maintenant la confirmation de quel côté le mal se situe vraiment.
Voilà, ça sort en salle aujourd'hui. Si vous voulez remporter des places, bah bonne nouvelle, La Voix du Jour revient dès demain.
Eh oui, on joue avec les leftos. Ce sera juste après le journal de 5h. Dans un instant, la météo et le journal de 5h30.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Sébastien Krebs.
Il est précisément 6h20 sur RMC. Si vous nous rejoignez, soyez tous les bienvenus. On est ravis de vous accompagner. Et c'est l'heure d'ouvrir notre débat du jour. Faut-il défendre ce droit à un référendum? Faut-il organiser un référendum sur la question des retraites?
C'est la question du jour sur RMC.
Emmanuel Macron doit-il retourner face aux Français, soumettre au vote sa réforme des retraites, quitte, comme le dit l'insoumis François Ruffin, à remettre en jeu son mandat devant tous les Français? On va en débattre tous ensemble parce que la question est posée à l'Assemblée nationale par les communistes qui ont déposé une motion référendaire pour réclamer que cette réforme passe par référendum. Si l'Assemblée vote cette motion, bien cela obligera le gouvernement à l'organiser. Alors on n'en est pas encore là, mais écoutez ce que dit le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel. C'est lui qui est à l'initiative de cette proposition.
7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme de la retraite parce qu'ils ont compris qu'elle est injuste. On n'a pas les mêmes points de vie en bonne santé quand on a fait sa carrière chez Rothschild ou quand on est aide-soignante ou aide à domicile. Si on recule l'âge de la retraite pour ces gens-là, c'est la retraite pour les morts, comme disait la CGT en 1910. Eh bien, puisqu'il y a débat, puisque c'est une question fondamentale, question simple, au peuple français, voulez-vous, oui ou non, voir l'âge de la retraite reculer? Et moi, je suis sûr de la réponse du peuple français.
Il est sûr de la réponse, le député Sébastien Jumel, qui demande donc ce référendum. Alors, vous l'imaginez, pour le camp présidentiel, c'est hors de question. Il y a déjà eu l'élection présidentielle. Voilà ce que répond le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
Les Français ont eu l'occasion de voter à 4 reprises. 2 tours de la présidentielle, 2 tours des législatives. Je ne dis pas qu'ils ont voté pour la réforme des retraites. Je dis néanmoins qu'ils ont voté pour un candidat et pour un programme qui incluait de manière la plus limpide qui soit qu'il y aurait une réforme des retraites, quelle serait cette réforme de retraite et même à partir de quand elle serait appliquée. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de nouvelles élections ou un nouveau référendum pour statuer sur la nécessité ou non. On ne tombera pas d'accord avec les communistes sur la nécessité de réformer les retraites.
Alors pourtant, Emmanuel Macron, il n'avait pas fermé la porte dans l'entre-deux-tours, on s'en souvient. Il avait dit, oui, pourquoi pas un référendum sur certaines grandes réformes, dont pourquoi pas sur la réforme de retraite. En tout cas, le débat est posé. 32-16, on vous attend, l'application RMC Direct Studio. Beaucoup de messages ce matin sur cette question. Un référendum sur les retraites, c'est aussi l'idée que soutient l'insoumis François Ruffin. Il sera l'invité du face-à-face avec Philippe Corbet tout à l'heure à 8h35. Et lui considère qu'Emmanuel Macron doit carrément remettre son mandat en jeu dans ce référendum, c'est-à-dire démissionner en cas de non. Bah, c'est exactement ce qui s'était passé pour le général de Gaulle. Anaïs, t'as regardé, il y a eu un certain nombre de référendums déjà sous la 5e République.
Il y en a eu 10 sur la constitution de la 5e République, l'Algérie, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, le passage au quinquennat ou encore sur plusieurs traités européens. Le non l'a emporté seulement 2 fois sur le projet de régionalisation voulu par le général de Gaulle en 69 et sur le traité portant constitution pour l'Europe en 2005. En 69, tu l'as dit, Charles de Gaulle avait engagé sa responsabilité sur ce référendum. Il a d'ailleurs démissionné suite aux résultats. Ce ne sera pas le cas de Jacques Chirac en 2005.
Voilà, sur la Constitution européenne qui avait été rejetée. 32-16, le débat est ouvert et Jonathan est avec nous. Bonjour Jonathan, c'est peut-être Jonathan, je ne sais pas. Bonjour.
Bonjour, non, c'est Jonathan.
C'est Jonathan. Vous nous appelez de Vendée, Jonathan, c'est ça ?
C'est ça.
Bienvenue sur RMC, ça va ce matin, vous êtes en forme ?
Oui, toujours. Hein.
Bon, le réveil sonne tôt, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Chauffeur routier.
Chauffeur routier, vous êtes sur la route là ?
Ouais.
D'accord, sur la route.
À 5h tous les matins.
À 5h tous les matins.
Donc avec nous, on est ravis de vous savoir là.
Ben oui, vous avez raison de garder RMC dans le poste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut revoter sur cette question des retraites ?
Ben, moi, je veux dire un petit peu comme Olivier Véran, hein, pourtant je ne suis pas du tout la REM. Il y a eu des votes. Le parti NUPES a souhaité donner ses voix à Emmanuel Macron. Maintenant, il faut assumer quoi. C'est trop facile de dire on va faire un référendum pour dire ben non, en fait on n'est pas d'accord, mais à la base ils étaient d'accord, parce qu'ils ont demandé à la NUPES de voter Macron au présidentiel.
Oui, alors après ils votaient Macron pour ne pas voter, il y a beaucoup de gens qui y sont allés quand même en se pinçant le nez pour ne pas voter Le Pen.
Donc ça veut dire quoi?
On est d'accord, mais Le Pen était contre la réforme des retraites, il avait déjà dit pendant les présidentielles qu'il allait le faire.
C'était dans son programme, mais beaucoup de gens ont voté pour lui pour d'autres raisons.
Vous comprenez que certains ne veuillent pas forcément voter Marine Le Pen juste pour ce sujet-là.
Oui, on est d'accord. Maintenant, il avait déjà dit qu'il le ferait pendant son élection Macron. Eh ben, faut assumer ce qu'on a dit. C'est trop facile.
Est-ce que lorsqu'on vote à une élection présidentielle, après, on n'a plus rien, on n'a plus le droit de se prononcer, de dire quoi que ce soit?
Moi, personnellement, je peux le dire, hein, j'ai voté Le Pen. Le Pen aurait fait ce qu'elle a dit, ben même si ça ne me plaisait pas, j'aurais fait ma gueule, parce que quoi qu'il arrive, j'aurais assumé mes convictions.
Alors, il y a beaucoup de gens sur l'application RMC, beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent et qui sont plutôt. Qui ne sont pas forcément de votre avis, hein, Jonathan. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réclament ce référendum, oui, et il faut engager le président et sa légitimité, puisque tout son projet se base sur l'idée de cette réforme. C'est ce que nous disait Rémi tout à l'heure, avec une question simple. Voilà, est-ce que vous êtes favorable à cette réforme qui va allonger le nombre d'annuités, qui va repousser l'âge? C'est finalement une question qui concerne tout le monde. Tout le monde est impliqué. Est-ce qu'elle a vraiment été actée à la présidentielle? Il n'y a pas eu beaucoup de débats très précis finalement sur cette réforme.
Ah ben, on est également d'accord. Mais à ce moment-là, à chaque fois qu'on fait un président, si jamais ça ne plaît pas, on fait des référendums pour tout.
Ouais, ce que vous dites, c'est que finalement, on va se retrouver à voter sur tout et surtout n'importe quoi.
Le président a été élu au premier tour à 26%.
Et il y a eu les législatives ensuite.
Et il y a eu les législatives. Donc, à ce moment-là, le président n'aura jamais la majorité, quoi qu'il arrive, sur pas du premier tour.
C'est-à-dire que le risque aussi, c'est que ça, de toute façon, est-ce que les gens vont répondre à la question posée? Ça va se transformer en référendum pour ou contre Macron, cette histoire, si ça arrive.
En gros, c'est ça. C'est ça. Ce sera forcément non.
Et vous dites que c'est une dérive? Vous dites quoi? Pour vous, c'est une dérive, quoi.
Il y aura les 25-26% qui vont être d'accord, ceux qui ont voté pour Macron au premier tour, et puis le reste qui sera non. Et ça sera systématiquement tout le temps comme ça. Ouais. Donc, ça sert à rien. C'est absurde.
Et ça veut dire qu'il y a derrière, le président doit démissionner pour vous s'il
Absolument pas. Absolument pas. Il a été élu à la majorité.
Donc, pas de référendum pour vous, Jonathan.
On assume ceux qui ont voté Macron au deuxième tour.
Ben écoutez, merci pour votre témoignage ce matin, Jonathan, depuis la Vendée. Le débat continue, 32-16, vos messages sur l'application RMC. Vous voyez, Jean-Jacques qui est d'accord avec vous sur l'application RMC, qui dit on a voté 4 fois depuis le mois d'avril. On va pas non plus revoter pour toutes les lois. Donc non, pas de vote pour quelques projets de loi. Sinon, on va passer notre temps à voter avec ces taux d'abstention records. Donc pas de référendum non plus pour Jean-Jacques. Le débat continue, le 32-16 bien sûr, et l'application RMC à suivre. Deux rendez-vous sur RMC, il est 5h48, c'est déjà demain. Anthony Morel nous a rejoint, salut Anthony.
Bonjour. On va parler
ce matin.
Ah bah ça va très bien parce qu'il paraît qu'on n'aura plus besoin d'avoir 50 chargeurs dans ses tiroirs d'ici quelques années.
Alors ça m'intéresse.
C'est pas mal, hein, le chargeur unique enfin arriver. C'est une obligation de l'Europe qui fait plier un géant américain, Apple, ce qui est quand même pas rien.
Ouais, alors ça, on nous en parle depuis des mois. Tu vas nous dire quand ça arrive surtout, parce qu'on est assez impatients. Arthur Asquin pour l'histoire du jour. Bonjour Arthur.
Bonjour Sébastien. Moi, je vais te parler du rififi actuel dans le monde du poker.
À tout de suite sur RMC. Il est 6h10 sur RMC, soyez tous les bienvenus. Voici les trois principaux titres à retenir dans l'actualité ce matin avec Anaïs.
Les fournisseurs d'énergie réunis à Bercy ce matin, ils sont accusés par le ministre de l'économie de ne pas suffisamment jouer le jeu en gonflant les prix proposés aux PME. Bruno Le Maire souhaite qu'ils signent une charte dans laquelle ils s'engageront à fournir des tarifs raisonnables à toutes les PME. La grève chez Total se poursuit ce matin. Trois sites sont toujours à l'arrêt, dont la raffinerie de Normandie, la plus grande de France, qui explique que vous puissiez encore avoir du mal à trouver de l'essence sans Île-de-France, la moitié des stations totales du périphérique parisien sont hors service. Et puis, premier succès européen de la saison pour l'OM, Marseille a dominé le Sporting Portugal 4-1 au Vélodrome hier pour la troisième journée de Ligue des Champions.
Un coup d'œil au ciel en ce mercredi, Anthony Kaczmarek.
Avec du soleil cet après-midi, après la dissipation des brouillards qui sont encore nombreux ce matin dans le nord-est ou encore vers le littoral aquitain. Deux exceptions à tout cela, le nord-ouest avec une perturbation qui apportera des pluies, surtout entre le golfe du Morbihan et le Cotentin, et puis le Languedoc avec quelques entrées maritime. Les températures sont en hausse. Elles sont quasiment estivales dans le sud avec 22 à 29 degrés, 17 à 25 au nord. Vous aurez 22 à Paris, 23 à Nice, 25 à Lyon et Strasbourg et 28 à Clermont-Ferrand.
Et toute l'équipe est là, toute l'équipe de Charles Matin pour vous accompagner. Il est 5h51 et c'est l'heure de regarder vers le futur.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. On a tous des câbles, des fils, des prises qui traînent partout à la maison, dans les tiroirs. On sait parfois même plus à quoi ils correspondent. Et ça y est, c'est pour bientôt le chargeur unique pour tous les appareils électroniques, quelle que soit la marque. Hier, le Parlement européen a adopté une nouvelle législation qui oblige les fabricants de smartphones à proposer ce chargeur universel à partir de 2024.
Ouais, automne 2024, tous les fabricants d'électronique devront se conformer à cette nouvelle réglementation. Donc les smartphones, ce qui est quand même le gros morceau, mais aussi les tablettes, les liseuses, les casques, les écouteurs, les consoles portables, les enceintes devront toutes être équipées du même type de chargeur avec la même connectique. Dans les faits, c'est déjà plus ou moins le cas, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appareils aujourd'hui, vous savez, qui sont en USB-C. USB-C, c'est les câbles avec les bouts arrondis sur les deux côtés. D'accord. Et qu'on peut charger dans les deux sens. Voilà. Le truc, c'est que la réglementation, elle a commencé à voir le jour en 2009 et à l'époque, chaque marque de téléphone avait un chargeur différent. Ça a quand même un petit peu évolué. Mais il y a quand même une exception notable aujourd'hui. L'exception notable, c'est Apple. Apple, ils ont toujours leur propre connectique, système Lightning.
C'est leur business. Hein,
ah bah bien sûr, c'est leur business. Donc c'est les ports avec des petites broches dessus, donc qui étaient très innovants à l'époque. Sauf que, évidemment, ils ne voulait pas revenir en arrière. Et là, eh bien, l'Europe, alors il faut le noter quand même, hein, on critique beaucoup l'Europe, mais là, l'Europe va faire plier Apple. Concrètement, les prochains modèles d'iPhone, ceux qui sortiront à partir, alors peut-être pas ceux de l'an prochain, mais en tout cas ceux de l'année d'après, c'est sûr, eh bien, auront cette nouvelle connectique, USB-C, qui devra être adoptée. Deuxième point intéressant de cette réglementation, c'est qu'il y aura une harmonisation des vitesses de charge. Aujourd'hui, quand vous avez un chargeur d'une marque, si vous le prêtez à un copain qui a un téléphone d'une autre marque, bah peut-être que son téléphone va se recharger moins vite. Ils sont bridés, en fait, pour pouvoir, on va dire, avantager une marque en particulier. Ça, ce sera terminé, tous les chargeurs feront à la même vitesse.
Et qu'est-ce que ça change concrètement pour nous ?
Alors, plus de simplicité clairement, tu pars en vacances, il n'y a plus besoin d'avoir le chargeur de différents chargeurs pour différents types de smartphones, donc évidemment c'est plus simple. Côté écologique, c'est intéressant parce que ça va limiter aussi la pollution numérique, hein. Il y a 11 000 tonnes de déchets chaque année qui sont constitués par les chargeurs jetés et inutilisés, donc ça c'est les deux gros avantages. Après, le petit inconvénient quand même, c'est est-ce que ça ne va pas mettre un frein à l'innovation ? C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus aucun intérêt finalement à inventer de nouveaux types de connectiques qui seront encore plus rapides, encore plus efficaces. On se dit oui mais bon, aujourd'hui c'est déjà pas mal ce qu'on a. Oui, mais enfin, l'innovation, elle devient intéressante à partir du moment où on l'a dans les mains. Et en fait, on peut se dire que bah, peut-être que ça va freiner la volonté de nouveaux inventeurs de créer de nouveaux types de connectiques.
Je croyais qu'on devait se passer totalement des chargeurs, moi. Tu nous avais pas dit ça ?
Bah si, mais ça va arriver, ça prend du temps. Mais effectivement, les innovations, elles vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer tout ce qui est chargement par induction, qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais l'idée, c'est que demain, on puisse. Tu arrives au bureau, tu poses ton téléphone sur la table, il se recharge automatiquement. À la maison, tu le poses sur un coin du canapé, même chose. Tu as d'ailleurs des systèmes maintenant de chargement à distance sur lesquels travaillent les fabricants. C'est-à-dire, en fait, c'est une petite box comme une box Wi-Fi. En fait, tu mets ça à la maison et ça va viser à distance avec des ondes millimétriques les appareils électroniques pour les recharger où qu'ils soient posés. Ça, c'est quand même assez intéressant. Pas mal. Ça va être voilà les systèmes de chargement du futur. Mais ça, on en a encore pour quelques années probablement.
On est dans le futur avec Anthony Morel tous les matins sur RMC. Merci beaucoup, Anthony. 5h55, c'est l'heure. Allez, d'un petit sourire avec Arthur Asquin.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur, ce matin, un potentiel scandale sur la planète poker.
savez, il y a quelques jours, on évoquait des soupçons de triche à base de sextoy vibrant dans le monde feutré des échecs. Eh bien, il se pourrait qu'un engin similaire ait servi autour d'une table de poker d'un casino de Los Angeles. À cette table, raconte The Independent, on retrouve Garrett Adelstein, un des meilleurs joueurs mondiaux, et Robbie Jade Lou, une joueuse chevronnée. Tout est diffusé en direct sur Internet. À un moment, la partie s'emballe. Adelstein dispose d'une main prometteuse, contrairement à son adversaire qui a une main très faible. Après le tirage des cartes communes, le champion est potentiellement en position de force. Il décide de miser très gros, plus de 100 000 $. Robbie Jade Lou a toujours une main faiblarde. Tout le monde s'attend à ce qu'elle se couche, à ce qu'elle abandonne. Eh bien non, et les commentateurs sont sidérés.
Pourquoi ?
Eh bien parce que dans cette situation, en fait, un joueur pro ne mise jamais une aussi grosse somme. Il ne s'aligne pas sur son adversaire. Soit il abandonne cette main, soit il bluffe et surenchérit.
Tu bluffes, Martini ? Il bluffe.
Pas sûr.
Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
Il a pas l'air de bluffer là quand même.
Selon les experts, seul un novice inconscient pourrait prendre la même décision que Robbie Jade Lou à ce moment-là. Il faut dire que le pot là, c'est-à-dire la mise totale est de 273 000 euros au total. Le croupier tire les dernières cartes communes. Adelstein perd alors toute la puissance de son jeu. Et finalement, Robbie Jade Lou s'impose avec un simple valet et un 4 dans son jeu totalement improbable. Une dispute éclate en coulisses. Adelstein explique avoir été clairement abusé, sans pour autant pouvoir apporter la preuve d'une triche au sextoy. L'organisateur a même proposé de régler ça au détecteur de mensonges. En vain, la gagnante, elle, maintient sa version. J'ai réussi à décoder le comportement d'Adelstein, dit-elle. Elle lui a aussi proposé une revanche à un contre un pour que, je cite, le monde entier me voit lire dans ton jeu, Garrett.
Donc on a peut-être assisté au plus gros scandale de triche du monde du poker.
Ouais,
un scandale à 273 000 euros.
Ouais, 273 000 euros, mais sur encore une fois, on en aura sans doute jamais la preuve.
C'est assez incroyable. Merci beaucoup. 5h57. Allez, un petit bonus pour se réveiller avant le journal de 6h avec toi, Anaïs. Tu as des bonnes nouvelles, tiens, pour les fans du groupe Depeche Mode.
Oui, le groupe britannique aux 100 millions de disques vendus, parmi ses hits les plus connus. Eh bien, il est de retour. Le chanteur du groupe a annoncé hier qu'un nouvel album sortirait en mars 2023, son 15e album studio. Il s'appellera Memento Mori. Il s'inspirera de la pandémie et de la mort d'Andy Fletcher, le claviériste disparu en mai dernier. Ils feront également une grande tournée qui va débuter en Californie et qui passera en France, tiens, avec 4 dates prévues sur le territoire. Le 31 mai à Bordeaux, le 22 juin à Lille, le 24 juin à Paris et le 4 juillet à Lyon. La pré-vente aura lieu lundi matin à 10h avant la vente officielle dès le lendemain.
Et je sens qu'il y en a qui vont se connecter à leur dite, hein, parce que Depeche Mode, il y a des fans inconditionnels. Hein, ça va se sentir. C'est le stade de France, hein, à Paroi. C'est le stade Pierre Mauroy également à Lille. Tournée des stades donc de Depeche Mode qui a été annoncée hier. La météo, Anthony Kazmarek, juste avant le journal de Marguerite Dumont. Anthony, c'est printanier, il va faire doux aujourd'hui.
Hein. Oui, c'est la journée la plus douce de la semaine. Il fait déjà 11 à 17 degrés ce matin, sauf vers les régions centrales et vers le nord-est où c'est un petit peu plus frais. Mais dans l'après-midi, douceur pour tout le monde. 17 à 25 degrés sur la moitié nord, 22 à 29 dans le sud. Mais localement, 30 ou 31 degrés dans les terres aquitaines. Vous aurez 28 à Clermont-Ferrand et Agen, 27 à Bordeaux, 25 à Lyon et à Strasbourg, 23 pour Biarritz et pour Nice, 22 à Paris et Langres, 20 à Lille, 18 à Brest. Côté ciel, encore quelques brouillards ce matin dans le nord-est. Vers les plages aquitaines, des entrées maritimes qui vont perdurer toute la journée autour du Languedoc. Mais donc, le soleil devrait apparaître très rapidement quasiment partout, sauf dans le nord-ouest, avec une petite dégradation nuageuse qui apportera des pluies ce matin vers le Finistère et dans l'après-midi avec du vent entre le golfe du Morbihan et le Cotentin. Et puis pour demain, encore quelques nuages du sud-ouest au nord-est, mais déjà le retour du soleil par le nord-ouest. Température qui baisse un peu, mais qui resteront douces et on va conserver cette douceur et ce temps généralement sec jusqu'à la fin du week-end jusqu'à dimanche.
Mercredi 5 octobre,
l'info sur RMC.
Un très bon réveil, on est ravis de vous accompagner ce matin. Vous êtes sur RMC, toute l'info à 6h. C'est avec Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. J'ai peur et je suis détruite. Le témoignage RMC de la victime d'un viol à Soissons ce matin. C'était dimanche dernier, chez elle en plein après-midi. Abandon de poste, puis accès au chômage. Ça pourrait ne plus être aussi facile. La majorité veut durcir les règles. Le foot, l'OM débloque enfin son compteur en Ligue des Champions. Les Marseillais ont réussi à renverser le Sporting Portugal, victoire 4-1.
Et on commence donc par ce témoignage RMC ce matin. Ce témoignage est celui d'une femme de 58 ans, violée chez elle, à Soissons, dans l'Aisne.
RMC vous le révélait en début de semaine. L'agression sexuelle a eu lieu dimanche dernier, en plein après-midi. L'agresseur, un réfugié afghan de 26 ans, aujourd'hui mis en examen, il s'était jeté sur la victime alors qu'elle sortait ses poubelles. Lucille Pascanet a pu la rencontrer chez elle à Soissons.
D'un seul coup, j'ai senti quelqu'un qui me poussait vers l'intérieur, qui m'a pris au cou et qui me serrait le cou. Il s'est jeté sur moi. Il avait une force dingue. Il était très, très énervé. Il m'a fait très mal. Il a recommencé plusieurs fois. Je me suis dit, il va me croire morte, il va arrêter. Mais il continuait. À un moment, il s'est relevé. J'ai ouvert la porte-fenêtre et j'ai crié au secours. Et heureusement, le voisin a entendu. Il a appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils l'ont menotté. Je l'entendais crier, j'avais peur. Et j'ai toujours peur. J'ai peur, je suis détruit, il m'a sali. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'en sais rien, moi, mais j'ai 58 ans. Pourquoi moi, quoi?
Maintenant, qu'est-ce que vous attendez?
Qu'il paye cher. Qu'il paye cher et qu'il soit expulsé dans son pays après. Mais qu'il soit jugé ici, qu'il soit jugé sévèrement. Sinon, je ne m'en remettrai pas.
Témoignage glaçant recueilli par Lucie Pascanet pour RMC. À Nantes, après plusieurs faits divers violents, la maire socialiste a reçu des gages du ministre de l'Intérieur, le financement de la moitié des caméras de vidéosurveillance et l'arrivée de 80 CRS l'année prochaine.
6h02 sur RMC, on en vient à cette mesure essentielle de la réforme de l'assurance chômage qui a été votée hier soir.
Elle permet de moduler les indemnisations. Elle sera plus stricte en temps de plein emploi. Plus généreuse quand le chômage est élevé, texte rejeté par la gauche et le Rassemblement national. Les débats sur ce texte continuent aujourd'hui. Il sera question de l'abandon de poste, une procédure très utilisée par les salariés car contrairement à la démission, elle permet de toucher le chômage. Ça pourrait changer. La majorité veut durcir les règles, nous explique Vincent Chevalier pour RMC.
Un amendement réclamé par le patronat.
S'il n'y a pas d'accord sur les conditions de départ, c'est pas logique qu'à ce moment-là, il y ait une forme de détournement en passant par l'abandon de poste.
Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME.
Je vous rappelle que l'assurance chômage, elle est financée par les cotisations des employeurs. Donc c'est normal que les partenaires sociaux et notamment les employeurs s'en préoccupent.
Aucun chiffre officiel, mais pour les syndicats, une partie des travailleurs qui ont recours à l'abandon de poste n'ont pas d'autre choix. Denis Gravouille, secrétaire confédéral CGT.
Ce sont des gens qui sont obligés d'abandonner leur poste parce que l'employeur leur a refusé une rupture conventionnelle, c'est évidemment pour ne pas payer les indemnités qui sont dues, laisser la partir à la personne sans lui accorder un mois, deux mois ou trois mois de salaire selon l'ancienneté.
De son côté, l'Association nationale des DRH regrette une occasion manquée pour Benoît Serre, le vice-président. Il fallait engager une réflexion plus globale.
Quelqu'un qui démissionne est moins bien traité que celui qui abandonne son poste. Donc c'est vrai qu'on a un sujet à traiter. Traitons-le de manière un peu plus large, parce que la vie du contrat de travail, elle a été conçue à une époque où on restait 30 ans dans la même entreprise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Selon l'amendement, le travailleur pourra toujours bénéficier du chômage s'il abandonne son poste pour raison de santé ou de sécurité.
Amendement examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale où c'était très agité hier. Journée marquée par des échanges fleuris entre les députés, des invectives, des tacles sur les différentes affaires. Côté majorité, les affaires Dupont-Moretti, Alexis Kohler, côté NUPES, Adrien Quatennens et Bayou, Julien Bayou d'ailleurs, qui contre-attaque. Nouvelle prise de parole hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5. C'est sur ce même plateau que Sandrine Rousseau l'avait accusée de violence morale sur son ex-compagne. Le visage très fermé, le député Europe Écologie Les Verts s'est dit prêt à se défendre.
C'est allé trop loin. Et moi, je suis dans une situation, on m'accuse de faits qui ne sont pas répréhensibles, pour lesquels je suis immédiatement jugé coupable. Pour autant, on ne me les présente pas. Et je ne peux pas m'en défendre. J'ai été mis en cause par mon ex-compagne début juillet. J'ai demandé 4 fois à être auditionné par
cette cellule.
par cette cellule interne d'Europe Écologie des Verts. Il n'y a pas d'affaire Bayou.
Oui, il n'y a pas d'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça que vous dites.
Mais je crois vraiment, tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Le privé ne doit pas être utilisé à des fins politiciennes.
Attention, si vous devez faire le plein, 3 raffineries du groupe Total toujours en grève. Résultat, il y a des difficultés d'approvisionnement à Paris. Une station Total sur 2 est à sec. Les salariés réclament une revalorisation des salaires. Même revendication dans les centrales nucléaires touchées par un mouvement de grève qui commence dès ce soir à 21h. À l'international, la Russie est-elle en train de perdre la guerre en Ukraine? Le président Volodymyr Zelensky affirme que son armée a repris des dizaines de localités cette semaine dans le sud et l'est, notamment dans les régions ukrainiennes de Kharkiv et surtout de Kherson.
6h05, on en vient à l'actualité du foot avec l'OM qui renoue enfin avec la victoire en Ligue des Champions.
Hier soir, les Marseillais ont réussi à renverser le Sporting Portugal au Vélodrome. 4-1, premier succès de la saison sur la scène européenne, Florent Germain.
Oui, Marseille avait sûrement besoin d'un coup de pouce du destin pour enfin gagner un match dans cette Ligue des Champions. Face à une équipe du Sporting plombée par son gardien de but, l'OM s'est totalement relancé au plus grand bonheur d'un des buteurs du soir, à Minarit.
Ouais, enfin, ça pesait sur tout le monde, je pense. Et ce soir, le fait de prendre les 3 points, de dominer ce match, c'était important. Voilà, on a montré du caractère ce soir. Un match plein défensivement, offensivement, malgré ce premier but. Mais je pense qu'on a été cohérent dans l'ensemble du match.
L'OM voulait surtout prouver qu'il est à sa place en Ligue des Champions. Cette nette victoire rassure donc le coach marseillais Igor Tudor.
C'est une belle victoire qui manquait depuis un certain temps en Ligue des Champions. Elle nous donne du courage, de la confiance. C'était très important. C'est sûr que les victoires facilitent le progrès.
L'OM croit toujours en la qualification et ira donc défier la tête haute, le Sporting Portugal, à Lisbonne mercredi prochain.
Et ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Coup d'envoi 21h, match à vivre en direct à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport 1.
Voilà, décidément, tout se joue à Lisbonne. Pour les Parisiens comme pour les Marseillais, chacun un club de Lisbonne dans ce tour de Ligue des Champions. C'était le journal de Marguerite Dumont sur RMC. Marguerite, qu'on retrouve tout à l'heure, bien sûr, à 7h dans Apolline Matin avec Charles Magnin qui est bien là ce matin. Il se prépare, vous le retrouvez dans quelques minutes à 6h30 sur RMC et sur RMC Story à la télévision Canal 23. La suite, c'est dans quelques minutes de rendez-vous avec le reste de l'équipe, Emmanuel Le Chip, Thibaut Texer pour le sport et l'économie.
Tout de suite, on va se pencher sur les prix des jouets. Noël approche, les catalogues des magasins sortent en ce moment. Mais est-ce que comme l'énergie ou la nourriture, les prix des jouets s'envolent?
Eh ben, je vais poser la question à Franck Maté, le porte-parole de la chaîne Jouet Club. Il sort son catalogue aujourd'hui, il a toutes les réponses, il est avec nous en studio. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Sébastien Krebs.
Soyez tous les bienvenus sur RMC, il est 6h10.
L'invité de Charles Matin.
Et notre invité ce matin, c'est vous, Franck Maté. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct et dans le studio d'RMC. Vous êtes le porte-parole de Jouet Club. Et pour vous, c'est déjà Noël. Oui, on est bien le 5 octobre. Mais vous êtes vraiment en plein dedans. Votre catalogue de jouets, le classique, le traditionnel, en papier, paraît aujourd'hui. Vous allez le distribuer. Et dans le contexte que l'on connaît, j'imagine que beaucoup de parents vont tout de suite regarder les prix en face des jouets. Est-ce que l'inflation touche aussi votre secteur? Est-ce que les jouets au pied du sapin seront plus chers cette année?
Alors, c'est vrai qu'un catalogue, ça a une double lecture, en fait. Il y a la lecture des enfants et la lecture des parents. Et donc les enfants, eux, ils vont rêver à toutes ces magnifiques scènes de jeu qu'ils vont pouvoir faire, à cette joie qu'il va y avoir au pied du sapin le 25 décembre au matin. Et puis les parents, pour eux, c'est effectivement l'occasion de découvrir ce que leurs enfants aiment, ce qu'ils apprécient, et puis de voir à quel prix tout ça va être proposé pour pouvoir faire leur budget. Donc le prix est extrêmement important pour les parents, et c'est vrai que dans le catalogue cette année, eh bien on va proposer toujours les meilleurs prix, et on a fait une étude. On a 2100 produits qui sont proposés dans notre catalogue cette année, et il y en a 1100 qui sont reconduits de l'an dernier. Donc ça nous a permis de faire un comparatif entre les prix 2021 et les prix 2022. Et nous avons constaté, chez Jouet Club, cette année, que les prix de Noël vont augmenter en moyenne de 3,6%.
3,6%. Donc ça veut dire que c'est un peu moins que l'inflation. Sur BFM TV, Michel-Édouard Leclerc prévenait lui aussi, hein, tout va coûter plus cher cette année en termes de jouets. Il y a des jouets qui sont plus touchés que d'autres.
Alors on a toujours des gros jouets, en fait, les grands formats, les baby-foot, les voitures électriques, qui sont plus impactés en termes de hausse de prix. Mais en fait, il y a des fabricants qui ont décidé de ne pas bouger leur prix. Certains ont vu leur prix baisser parce que leurs conditions se sont améliorées par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qui fait que les prix augmentent? Ben, c'est d'un côté le coût matière, le plastique, le métal, le bois, ça coûte plus cher. C'est le coût du transport aussi, bien qu'il ait diminué de moitié par rapport à l'an dernier. Et puis le prix de certains composants électroniques. Donc on va retrouver finalement une équation dans laquelle les fabricants ont proposé des hausses de prix. Notre travail, ça a été de sélectionner les jouets justement que l'on trouvait avec le meilleur rapport qualité-prix pour les mettre dans notre catalogue de Noël. On a négocié avec certains des hausses qui soient plus limitées. Et
sur le prix moyen d'un jouet, ça fait du coup, si on le chiffre en euros, les 3%, ça va faire des différences assez importantes visuellement.
En moyenne, ça représente 1,10 centimes d'euros. Donc c'est pas énorme comme hausse. Le prix moyen d'un jouet c'est 19 euros dans les magasins. Un joli cadeau de Noël, il est entre 30 et 50 euros. Donc on voit bien qu'une hausse de 3,6%, ça représente pas une valeur importante pour les familles.
C'est 1 euro quoi, 1 ou 2 euros.
Oui, c'est 1 euro, 1 euro 10. Donc c'est vraiment quelque chose qui est totalement acceptable.
Et vous essayez de limiter tout ça, vous allez rogner sur vos marges cette année?
Et alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque le prix des jouets de Noël. Donc tous les prix qui sont proposés aujourd'hui 5 octobre dans notre catalogue ne bougeront pas jusqu'au 25 décembre. Donc c'est la garantie pour les clients d'acheter au meilleur prix, y compris jusqu'au 24 décembre.
Mais après il y a des risques de pénurie.
Alors il y a toujours dans notre marché des produits qui vont partir plus vite que d'autres, parce que ce que l'on propose aujourd'hui, on l'a acheté il y a 6 à 8 mois. Mm-hmm. Et donc les fabricants nous ont mis à disposition des quantités pour le marché français, donc pour tous les acteurs. Et effectivement, si on se rend compte que le 2 décembre, le 3 décembre, il nous aurait fallu quelques centaines ou milliers de pièces de plus, eh bien ce n'est pas possible,
c'est trop tard.
Parce que les fabricants fabriquent déjà pour le janvier.
Mais vous avez eu plus de mal cette année à vous approvisionner en raison des difficultés dont on parlait, à la fois pour le côté électronique et puis sinon pour les coûts de transport, etc. Est-ce que ça a impacté justement les quantités que vous allez mettre en rayon?
Cette année, sur la logistique, il n'y a pas de difficulté. On est revenu dans un cycle normal. 2021 était exceptionnel. C'était la reprise post-Covid. Là, les choses se sont remises en marche normalement. Donc, on n'a pas de difficulté d'approvisionnement. On n'a pas de problématique de fabrication. Donc, les stocks sont là. Ils sont bien livrés. Ils sont livrés en temps. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des magasins qui commencent à déborder de marchandises.
Alors, il y a certains concurrents qui se mettre sur le marché de la seconde main, des jouets revendus, etc. On sait que dans l'habillement aussi, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, à la fois pour des raisons écologiques et puis aussi pour des raisons de prix. Est-ce que sur le jouet, vous, c'est quelque chose auquel vous vous intéressez?
Ben c'est quelque chose qu'on a déjà fait deux fois en 2021 et cette année au mois de juin. C'est l'opération Troc aux jouets, donc qui permet en fait aux clients de rapporter les jouets d'occasion en magasin. Nous les reprenons et ensuite nous les reproposons à la vente. Donc ça fait partie des nouveaux usages.
Mais ça a été quoi, des opérations ponctuelles?
Oui, c'est des ponctuelles.
Vous lancez pas là-dedans avec un rayon spécial.
Il faut le tester. Hein, c'est important. Il y a des problématiques de normes dans les jouets qui sont extrêmement importantes. Des problématiques sanitaires aussi. Donc c'est quelque chose que nous avons fait, qui fonctionne bien et que nous allons remettre en place dans l'ensemble de nos magasins en 2023.
C'est l'heure du catalogue, ça y est déjà, début octobre, le fameux catalogue de jouets en papier, qui est toujours en papier hein, d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait se dire que le papier disparaît, non,
ça, et aussi en
la
digital.
Tradition reste, vous l'avez aussi évidemment en digital. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Franck Mathé, la saison de Noël officiellement ouverte pour les magasins de jouets, vous êtes le porte-parole de la chaîne de magasins Jouets Club, merci à vous. Il est 6h15 sur RMC, vos rendez-vous à suivre. Eh bien, c'est Emmanuel Le Chypre pour le Chypre du jour. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
De quoi on parle ce matin?
Eh bien, on parle des notes de frais qu'il faut avancer. Et du coup, ça met les cadres dans l'embarras parce que du coup, vous pouvez vous retrouver à découvert. Voilà.
Ah oui, bah encore un sujet inflation. La story sport à suivre également avec Thibaut Texer. À tout de suite sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Sébastien Krebs.
Il est 6h19 sur RMC. Tout de suite, place à l'économie.
Le Chypre du jour.
Le chiffre du jour, Emmanuel, le chiffre du jour, c'est 33%.
33%, effectivement. Alors, vous savez que les notes de frais, c'est une habitude, hein, notamment pour les cadres. Il y a 8 cadres sur 10 qui font des notes de frais chaque mois. Le problème, c'est que leur
gestion... Ce n'est pas la partie la plus passionnante du travail, on est d'accord.
Ah bah, c'est-à-dire que si vous arrivez à aller au bout du processus de remboursement de notes de frais, vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. D'ailleurs, à mon avis, la difficulté de ces processus est faite pour vous décourager et vous dissuader de vous faire rembourser.
On est bien d'accord.
Ah bah, bien sûr. C'est psychologique, c'est terrible. Et donc, c'est vrai que leur gestion devient de plus en plus problématique, montre une étude de Mooncard. Concrètement, on a un tiers des cadres parmi ceux qui réalisent des notes de frais qui déclarent s'être déjà retrouvés en difficulté financière à cause des notes de frais. Pour une raison simple, c'est bah, quand vous devez avancer les sommes, c'est pas forcément que vous les avez sur votre compte perso. Et on a ainsi 58% des cadres qui ont déjà été en situation de découvert bancaire à cause des frais qu'ils ont dû avancer. Et on en a même 1 sur 7 qui a eu vraiment des grosses difficultés.
Et plus l'entreprise est grande, plus les délais de remboursement s'allongent. Et bah c'est
oui,
ça le problème aussi.
Et bah oui, c'est un peu contre-intuitif. On pourrait penser que dans les grosses boîtes, les DRH sont des machines de guerre à rembourser les notes de frais.
Et bah non,
puisque ce sont bien ces process de remboursement qui inquiètent. Il n'y a que 18% des entreprises qui remboursent en moins d'une semaine, contre 47% qui remboursent en 2 semaines ou plus. Et effectivement, plus l'entreprise est grande, plus les délais s'allongent. Presque 4 cadres sur 10 de TPE doivent attendre plus de 2 semaines, alors que c'est 6 cadres sur 10 quasiment dans les grandes entreprises. Et évidemment, l'inflation aggrave la situation.
On se demande pourquoi c'est si long, parce que maintenant c'est tout numérique, il faut faire des photos de ses tickets, tout est des applications, ça pourrait être...
Il y a des applications qui existent, déjà je n'ose pas, je ne sais pas si je peux les citer, mais où effectivement, vous êtes au resto, clac, vous photographiez votre note de frais avec votre portable et vous n'avez plus rien à faire.
Et c'est quand même beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple, ça s'appelle Conto, allez,
non. Voilà. Bon, les notes de frais, c'est un gros sujet dans les entreprises. Les délais, les logiciels, parfois
mensuels.
Pas évident à faire. Merci Emmanuel, le chiffre 33%. Hein, donc des notes de frais, c'était quoi, pardon,
on peut même se demander, après tout, est-ce que c'est normal que les salariés avancent de l'argent pour leur entreprise?
Oui,
on pousse la réflexion jusque là.
Allez, le sport à présent.
La story sport.
Avec Thibaut Texer. Thibaut, à l'heure de l'urgence climatique, il y a quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar, jugée aberrante déjà pour des raisons écologiques, on apprend maintenant que l'Arabie Saoudite a été retenue pour organiser les Jeux Asiatiques d'hiver.
Des sports d'hiver en plein désert.
On va arrêter la grande planche tout l'hiver quand il fera plus 25 degrés.
Ouais, grave.
Mais on pourrait presque minimiser les polémiques autour des stades climatisés de Doha si l'urgence n'était pas là. C'est donc au bord de la mer Rouge que va se tenir en 2029 l'équivalent des Jeux Olympiques d'hiver pour l'Asie. Ski, snowboard, patinage artistique, 47 épreuves au programme, 28 sur neige, 19 sur glace.
C'est un projet faramineux estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars.
Et l'idée, c'est de créer une mégalopole futuriste à Trojena, zone montagneuse du nord-ouest du royaume, plus grande que la Bretagne où la température moyenne à l'année est à 10 degrés.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites là.
Baptisé Neom, ce projet en construction porté par le prince héritier Mohamed Ben Salman a été imaginé il y a 5 ans. Il sortira de terre en 2026 avec cette volonté un jour d'y faire venir une compétition hivernale.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Et oui, les Saoudiens ont dû regarder les bronzés parce que ça a marché et les réactions sont nombreuses ce matin. De la politique au milieu associatif, beaucoup dénoncent une aberration écologique loin, très très loin des valeurs du sport, une hérésie que partage le skieur français Yoann Claré.
C'est surtout un très mauvais signal envoyé. Je trouve que je pense que le ski peut être pratiqué d'une manière beaucoup plus responsable. J'espère que c'est pas une étape pour avoir une compétition plus importante par la suite dans ce genre de pays et dans ce genre de conditions en tout cas.
Et oui, parce que dans le viseur des Saoudiens, il y a les Jeux d'hiver 2034 et les Jeux d'été 2036.
Concrètement, que contient ce projet ?
Alors, ce projet, c'est le directeur de Neom qui le décrit, Nadim Al-Asser. Il explique que ce projet sera doté d'infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au cœur du désert.
Tu vois là, c'est la dent du guignol. Puis la coulée du Grand Bronze, c'est derrière, là, mais on peut pas la voir.
Avec des pistes de ski ouvertes aux touristes toute l'année, la carte artificielle.
On a perdu Manu, je suis
pas. C'est la coulée du Grand Bronze.
Pour ça. Des chalets, des manoirs, des hôtels de luxe, une destination unique en montagne, été comme hiver, précise-t-on sur le site internet de Neom. Une idée qui pourrait faire sourire si la catastrophe écologique qui se profile n'était pas en train de menacer la planète.
Ouais, ça paraît complètement aberrant. Les Jeux asiatiques d'hiver, donc dans le désert en Arabie Saoudite. Thibaut Texer pour la Story Sport chaque matin. Il est 6h24. Vous êtes sur RMC et vous allez pouvoir également allumer RMC Story, le canal 23 à la télévision, parce qu'Apolline Matin démarre et c'est avec Charles Magnin ce matin. Bonjour Charles.
Bonjour Sébastien, salut Anaïs, Thibaut, bonjour. Manu qui va nous rejoindre. Bravo, je vous ai écouté évidemment, j'ai été fidèle au poste dès 4h30. Et oui, je prends la suite parce que Apolline revient demain, mais c'est l'heure de brancher votre télé sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et puis sur RMC, on continue tous ensemble, tous ces débats que vous avez lancés de bonne heure, mais on va les poursuivre dans un instant sur RMC.
À tout de suite.